France Musique. Bonjour à toutes et à tous. Samedi 9 janvier, 9h, tout juste. Bienvenue dans France Musique est à vous. Vous êtes ici chez vous. Nous vous attendons donc pour écouter votre programmation musicale, vos émotions, vos envies de partage. Et nous sommes heureux également d'échanger avec vous. L'éclectisme et la variété de vos suggestions nous fascinent et nous encouragent à découvrir encore et encore un maximum de choses en votre compagnie, qu'il s'agisse de versions rares ou une autre façon d'écouter une œuvre grâce à vos souvenirs, vos clés d'écoute et juste la façon dont vous nous la racontez. À vous donc via les réseaux sociaux de France Musique, Twitter, Facebook et Instagram, et notre mail francemusique@radiofrance.com. Nos deux chroniques au programme, de beaux rendez-vous avec Christophe Dillis à 9h54 pour Tendez l'oreille, qui nous dévoile aujourd'hui la recette de toutes les compositions de Rachel Portman, et la chronique d'Aliette Delalleux à 10h51. Aliette, ce matin, nous parlera de la guitariste américaine Elizabeth Cotton, née en 1893. Alors déjà de belles idées qui nous sont arrivées cette semaine, quelques noms, Ravel, Porpora, Dvorak, une chanson de la Mélodie du Bonheur ou encore Delib. La suite, eh bien comme chaque samedi, nous attendons vos suggestions pour le savoir. France Musique est à vous et à Benoît, là maintenant tout de suite, qui sur Instagram nous propose le dernier disque du clarinettiste suédois Martin Fröst, disque d'une grande beauté. Alors clarinette et Vivaldi, me direz-vous, ça étonne. La clarinette, dérivée du chalumeau, effectivement inventée à l'époque de Vivaldi, à la toute fin du XVIIe siècle, très peu développée encore, et la clarinette moderne, elle, plutôt date du XVIIIe siècle. Alors ce disque, qu'en est-il? C'est en fait une aventure baroque qui nous pose une question. Qu'aurait donc écrit Vivaldi pour la clarinette si l'instrument avait été plus développé en son temps? Élément de réponse donc avec l'imagination de trois concertos pour clarinette composés par Martin Fröst à partir des plus beaux airs d'opéra et d'oratorio de Vivaldi. Thank you. Le deuxième mouvement allegro du concerto pour clarinette numéro 3 en fa majeur d'Antonio Vivaldi par le concerto Köln. Alexander Scherf à la direction et Martin Fröst à la clarinette. L'ancien et le romantique ici qui se retrouvent. La création donc de ce concerto pour clarinette imaginé par le clarinettiste si Vivaldi avait pu connaître cette clarinette moderne. Ici inspirée d'après l'oratorio Judith Triomphante. Nous vous offrons ce matin, pour vous, en ligne avec nous, le disque Dancing in Your Heads de l'Orchestre National de Jazz, paru l'été dernier en partenariat avec France Musique. Et à ce propos, nous vous invitons à lire le reportage écrit par les élèves du collège Aretha Franklin de Marciac auprès de l'Orchestre National de Jazz qui préparait la première de Dracula, premier spectacle jeune public de l'orchestre à la Strada de Marciac. Le reportage des élèves est à lire sur la page de notre émission de ce jour. Et nous, nous accueillons Marie-Vonne qui est à Chalon-sur-Saône. Bonjour Marie-Vonne.
Bonjour Gabrielle.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes retraitée depuis quelques semaines et donc vous avez beaucoup plus de temps pour écouter France Musique, si j'ai bien compris.
Voilà, tout à fait, tout à fait.
Vous avez récemment eu le temps aussi de fouiller dans vos agendas, en tout cas de l'année 1979, parce que vous avez envie de nous partager avec nous une soirée qui est restée gravée dans votre mémoire. Vous pouvez nous la conter ?
Voilà. Donc en ce moment où nous sommes un petit peu confinés chez nous, je voulais partager avec vous un souvenir de ma jeunesse. J'étais étudiante en lettres classiques à l'université de Dijon. J'étudiais donc le latin, le grec, mais aussi l'ancien français. Et un soir, le 6 mars 79 en effet exactement, j'ai vécu une soirée qui est vraiment restée dans ma mémoire. J'ai assisté ce soir-là à mon premier concert de musique médiévale dans une salle de cinéma. Alors c'était une soirée spéciale au cinéma Arès et de Dijon et nous étions venus pour voir Perceval le Gallois de Frédéric Romer. Donc première surprise avant le film, un petit concert de musique médiévale. C'était la première fois que je voyais en vrai les instruments et donc déjà c'était très agréable. Deuxième surprise, évidemment, le film, ses décors, le texte en ancien français, les voix, parce que j'aime beaucoup les voix, d'Ariel Dombal, André Dussolier, Fabrice Luchini. Et troisième surprise, la présence de Luchini, donc en 79, il avait 28 ans, moi j'avais 24 ans, je ne le connaissais pas, donc voilà, c'était une soirée inoubliable.
Et à propos de musique médiévale, et depuis ce concert, là, vous voulez nous proposer ce matin un ensemble créé en 2009 qui s'appelle Les Voix Animées.
Voilà.
Comment les avez-vous connus, ces musiciens ?
Alors, je les ai connus parce que je passe mes vacances dans le Var, à Toulon. Donc, c'est un ensemble vocal de Toulon. Et j'ai eu la chance de les voir en concert plusieurs fois, et en particulier en août dernier, à l'église de l'abbaye du Toronnet. Et c'était vraiment très, très agréable dans ce lieu à l'acoustique magique. Parce que je trouve que la musique, bien sûr, elle passe par les instruments, par les voix, mais aussi par les lieux. Ça nous manque vraiment en ce moment de ne pas être dans des lieux, bien sûr, avec les autres auditeurs, mais surtout dans ces lieux magnifiant la musique par leur acoustique, par leur architecture.
Et depuis, ils ont été entendus sur France Musique tout récemment, oui. Le 11 octobre, dans l'émission de l'ami Clément Rochefort, Génération France, voilà. Musique, le live, qui garde d'ailleurs, m'a-t-il dit cette semaine, un excellent souvenir du passage des Voix Animées dirigé par le baryton Luc Coadou. Et donc, nous allons écouter ce matin le Chant des Oiseaux de Clément Jeannequin. Effectivement, une version, c'est très précis, il y a quelque chose de très sensible et très clair dans leur interprétation.
Voilà. De ce J'aime chant beaucoup des les entendre et surtout les voir. En plus de leur voix, ils ont vraiment des visages très expressifs. Beaucoup, bien sûr, de technique et un humour extraordinaire. Et j'engage vraiment les auditeurs à les voir et en ce moment, peut-être, à aller sur leur site internet qui est très, très bien fait.
C'est ce que j'allais dire parce qu'ils ont en plus une vidéo, le Noël solidaire, oui. Qui est à voir gratuitement donc sur leur site lesvoixanimées.com. Et on les salue et on vous remercie vivement, Marie-Vonne.
Merci beaucoup.
Bon week-end.
Bonne année à tout le monde. Au revoir.
Les bouquins sont dans le monde. 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 Les bouquins sont dans le monde.
Une chanson du début du XVIe siècle, Le Chant des Oiseaux de Clément Jeannequin, interprété superbement par l'ensemble Les Voix Animées, dirigé par Luc Coadou. Et j'invite également les auditeurs à revoir leur passage dans l'émission Génération France Musique, le live, le 11 octobre dernier, sur notre site francemusique.fr. Un mail de Philippe tout de suite, qui nous écoute dans un village de la Manche, qui nous suggère, lui, la diffusion de l'histoire de Babar de Francis Poulenc, dans la version dite par Pierre Freinet et jouée au piano par Poulenc lui-même. Quand j'étais enfant, dans les années 1960, ce disque faisait partie de la discothèque familiale. En fait, il avait été offert en cadeau à l'un de mes frères, mais il laissait tout le monde l'écouter sur l'unique électrophone familial. Au résultat, il était archi usé et quasiment inaudible. Avec d'autres disques pour enfants ou adolescents, tels que Piccolo Saxo, ce disque de Poulenc a marqué mon jeune âge. D'autres excellentes versions existent, mais bien sûr, je n'ai pas retrouvé celle-là. Le frère susnommé m'a dit avoir écrit en ce sens à la maison de disques concernée, et cette revue répond que la bande magnétique originale était perdue. Elle est introuvable donc, mais plusieurs autres versions sont disponibles. Mais comment ça, introuvable, Philippe ? Ah non, il faut pas nous dire ça à nous. Nous avons fouillé, nous avons échangé avec la discothèque de Radio France qui, parmi ses trésors, a bien cette version. Un micro-sillon 33 tours, nous allons donc pouvoir l'écouter. Un vinyle rouge avec les dessins de Laurent de Brunhoff et cette pochette qui nous raconte l'histoire de la création de cette œuvre de Poulenc en 1940, qui est chez des amis à Brive-la-Gaillarde. L'une des petites filles lui demande un jour s'il peut se mettre au piano et jouer une musique sur ce livre qu'elle lui tend, l'histoire de Babar. Il improvise et tous les enfants, 11 en tout, qui formaient son auditoire, étaient ravis. Poulenc commence alors à mettre sur partition ce qu'il venait de jouer. L'histoire de Babar pour récitant et piano était née.
Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. Il s'amuse à creuser le sable avec un coquillage. Se promène très heureux sur le dos de sa maman. Un vilain chasseur caché derrière un buisson tire sur eux. Le chasseur a tué la maman. Les singes se cachent. Les oiseaux s'envolent. Le chasseur court pour attraper le pauvre Babar. Babar se sauve parce qu'il a peur du chasseur.
Document, ce disque, ce micro-sillon 33 tours des années 50, le premier enregistrement de Babar de Poulenc avec Francis Poulenc au piano lui-même et Pierre Fresnay en récitant. Ne vous inquiétez pas les enfants, Babar va aller mieux et puis il va rencontrer une vieille dame très riche et lui arriver plein d'aventures, tout va bien. 9h19, nous écoutons vos messages vocaux que nous recevons également sur notre mail, vos mots sur l'antenne de France Musique. C'est votre moment et nous sommes ravis de vous donner la parole. Voici le message de Selma.
Bonjour et merci à France Musique pour ce magnifique moment. Alors, je suis Selma Bellarvi, j'ai 18 ans et je suis accordéoniste en cycle préparatoire à l'enseignement supérieur. Donc en abrégé, ça s'appelle CPES, au Conservatoire à rayonnement régional de Paris. Et donc, cette œuvre, qui s'appelle Danse numéro 2 OP72, est issue d'une série de 8 pièces. En fait, ce sont 8 danses, voilà, donc des danses traditionnelles comme la polka ou le rondo. Et donc elle a été composée en 1878, c'est-à-dire à l'époque romantique, par Dvorak, qui est un compositeur tchèque. Et alors moi j'ai eu plaisir à la découvrir en cours de formation musicale au CRR il y a quelques semaines, et ça a été un véritable coup de cœur. J'ajouterais en fait également que j'affectionne tout particulièrement la version de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, qui est dirigée par Simon Rattle, qui use, je dirais, d'une sensibilité et d'une subtilité très juste pour servir la musique de Dvorak. Donc voilà ce petit moment musical. Je pense que la musique c'est une véritable thérapie en ce moment, en tout cas un remède en ces temps difficiles, et j'espère que cette écoute vous aura permis en fait de vous évader hors du temps, voilà, quelques instants. Donc merci beaucoup à France Musique et je vous souhaite à tous un agréable week-end.
Magnifique danse slave en mi mineur opus 72, numéro 2 d'Antonin Dvorak par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la baguette de Simon Rattle. Merci beaucoup Selma pour cette très belle suggestion. L'Orchestre Philharmonique de Berlin et ce chef que vous vouliez entendre. Et l'orchestre, lui, sera très bientôt en concert en ligne, dirigé par son chef actuel, Kirill Petrenko, le 16 janvier prochain à 19h. Programme Tchaïkovski et Rachmaninov, donc à suivre en ligne sur le site de l'Orchestre Philharmonique de Berlin samedi prochain. Nous accueillons maintenant Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour Gabriel.
Vous nous appelez du sud de la France à Martigues.
Et tout à fait.
Il fait beau ?
Pas très bien. Pas très beau.
Daniel, vous êtes gynécologue à la retraite, partagé entre deux passions, la musique et la peinture, et vous êtes président d'une association Regards sur la peinture. Et là, ce matin, nous allons plutôt parler musique, puisque je vois dans tout ce que vous nous avez écrit que vous avez une vie très très riche, vous avez de très beaux souvenirs. Est-ce que vous pouvez nous en raconter quelques-uns, au moins en tout cas sur les grandes voix que vous avez vues en concert?
La première voix qui m'a impressionnée, c'était celle d'Alfred Heller. Et je vous disais que je suis originaire de la Haute-Provence, et dans les années 60-65, le contre-ténor anglais Alfred Heller possédait une maison tout près de mon village et il séjournait l'été. Et toutes les années, il offrait un concert gratuit dans la petite église du village de Lurs, tout près de Fort-Calquier. Mmh. Alors, on le voyait arriver dans son ami Siska au temple, accompagné de son luthiste, et nous devions être à peine une quinzaine à assister au concert. J'avais alors une quinzaine d'années, et je me rappelle mon étonnement devant cet instrument bizarre qui ne ressemblait à rien de ce que je connaissais. Mais surtout, c'est le choc et l'émotion intense que j'ai reçu lorsque j'ai entendu cette voix céleste émanant de ce corps de géant. Mmh. Émotion à jamais gravée dans ma mémoire et qui est à l'origine de ma passion pour la musique et plus précisément pour les voix. Mmh. Bien sûr, ce n'est que plus tard que j'ai mesuré la chance que j'avais eue de pouvoir entendre cet immense artiste.
Absolument.
C'est à partir de là que je me suis intéressée à la musique et comme j'habite tout près d'Aix-en-Provence, mes étés étaient rythmés par le festival d'Aix-en-Provence et j'ai eu la chance d'entendre le début de Jessie Norman.
Oui.
Et je me souviens d'un récital à Lyon où elle avait donné les leaders de Richard Strauss. J'étais dans les premiers rangs avec la traduction sur les genoux et je voyais sa belle technique vocale. J'ai aussi un souvenir inoubliable des nuits d'été de Berlioz qu'elle avait donné à Aix-en-Provence.
Et puis, là, je rebondais aussi sur un souvenir à Aïda, à Louxor, pardon, Aïda, que vous avez vu en 87.
Voilà, alors ça, c'était aussi un magnifique souvenir.
J'imagine.
C'était très émouvant de se retrouver sur les lieux de l'intrigue. C'était les équipes des Arènes de Vérone qui avaient monté cet opéra à Louxor. Et il est vrai que l'armée égyptienne remontant l'allée des Sphinx au son des trompettes d'Aïda est un souvenir absolument inoubliable, entre autres.
Ouais. Alors ce matin, on va continuer avec les voix, mais celle d'un contre-ténor croate, Max Emanuel Cencik, que selon vous, nous entendons trop rarement sur notre antenne. Alors grâce à vous, on va l'écouter. Comment l'avez-vous connu, ce chanteur?
Alors, je l'ai découvert dans les airs d'opéra de Rossini, répertoire habituel des chanteuses femmes, et j'ai été subjuguée par ses aigus lumineux, peut-être un reliquat de son registre de sopraniste, ses graves profonds et ses nuances subtiles. Ensuite, je l'ai découvert dans le répertoire baroque, où il excelle, bien évidemment. Et je vous ai laissé le choix de l'œuvre que vous allez nous faire écouter.
Exactement. Donc nous allons écouter ce Max Emanuel Cencik avec Il Pomodoro, Maxime Emelianichev dans un air extrait du Polyphémo de Porpora, Nicolas Porpora. Merci beaucoup, cher Daniel. Profitez bien de votre week-end et à bientôt.
Merci à vous, Gabriel, de vos belles émissions. Merci. Del bosco, odor del campo, e orme.
De Polifemo quel vasto quel fiero de Nicolas Porpora, chanté par Max-Emmanuel Tchentchik, contre-ténor, accompagné par Il Pomodoro et Maxime Emilianichev à la baguette.
France Musique est à vous, Gabriel Oliveira Guyon.
Un bonjour à vous dont je reçois les mails actuellement, entre autres Jean-Louis Christian à Aix-en-Provence ou encore Patricia. Et ce mail de Laure à Dreux qui nous remercie tous à France Musique ici pour nos différentes émissions. Le joyeux duo du matin à 9h, Émilie et Rodolphe qui la réjouit toute la semaine. Le bac du dimanche indispensable, nous le samedi matin, suivi de Benoît Duterte. Que de découvertes et de plaisirs nous ont encore plus aidé cette année. Grâce à vous, j'ai découvert, rajoute Laure, Gounod et ses œuvres pour piano jouées par Roberto Procéda. Si vous avez quelques minutes à leur consacrer, j'en serais ravie. Laure qui conclut, peut-on dire que 2021 rimera avec vaccin ? La Veneziana pour piano, très belle pièce de Charles Gounod. interprété par Roberto Proceda. 9h38 sur France Musique. Merci d'être avec nous sur Twitter. Je vois Kamel B, Brigitte, François ou encore Thomas. Et je sais, via Twitter ou autre, que vous aimez suivre l'actualité et la mettre parfois en musique à propos d'une exposition. Bon, ça c'était avant ou après. Des élections américaines en novembre, la mort d'une personnalité. Eh bien aujourd'hui, c'est rapport avec l'Angleterre que Pierre-David Aumont dans la Sarthe nous sollicite. Après une période de transition, le Brexit est entré concrètement en application il y a quelques jours, le 1er janvier, et le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Alors voici le message de Pierre-David. Je voudrais suggérer le célèbre titre extrait de L'Acmé, le duo des fleurs, Viens Malika de Léo Delibes. Cela pour dire au revoir à nos amis britanniques qui quittent l'Europe, et il me semble que cet air est très populaire là-bas. Rappelons que l'histoire de cet opéra de Léo Delibes se déroule à la fin du 19e siècle sous la domination britannique en Inde. Et notre auditeur rajoute, Maddy Mesplé l'a très bien interprété avec Daniel Millet en 1970, version de légende, avec l'orchestre et le chœur de l'Opéra Comique de Paris et Alain Lombard à la direction.
Coule calme et sombre, émaillé par le chant des oiseaux.
Toujours un plaisir que d'écouter ce fameux duo des fleurs. Vient Malika, extrait de l'Acmé de Léo Delibes, Maddy Mesplé et Daniel Millet avec l'orchestre de l'Opéra Comique de Paris sous la direction d'Alain Lombard. Anne-Marie sur Facebook nous propose Le dernier sommeil de la Vierge de Jules Massenet. Jean-Marc réagit, excellent choix, une page bien trop méconnue. Et les échanges se poursuivent. Anne-Marie commente en écrivant « Oui, la première fois que je l'ai entendu, frissons et larmes ». Larmes et frissons, mais pas trop, j'espère, de la part d'Anne-Marie. À l'instant, l'Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, dirigé par John Elliott Gardiner, dans Le dernier sommeil de la Vierge, la scène 4 de la Vierge de Jules Massenet. Pas que des larmes, pas que des frissons. Voici une proposition, cette fois-ci, de Lucille en Isère. Après un beau séjour à Douala, au Cameroun, une petite pépite qui me rappelle de joyeux souvenirs. Une très belle découverte, merci beaucoup. Alors hier, j'écoutais ce titre dans le bureau. Max Dozol m'est passé par là et il m'a dit « Hey Gabi, c'est pas la voix de Blic Bassi, là, ce que t'écoutes ?» Il est fort, ce Max. Merci Lucille, un vrai coup de cœur. Le chanteur camerounais Blik Bassi avec le groupe Roseau, composé d'Émile Omar, Clément Petit et Alex Finky, au service d'un projet marqué, vous allez l'entendre, soul, jazz, funk, blues, pop. Lucille nous a prévenu et je valide. C'est une pépite après la musique de Jules Massenet. C'est parfait pour un samedi matin de janvier. 9h50, bienvenue à vous. Le chanteur camerounais Blik Bassi avec le groupe Roseau dans ce titre Quête proposé par Lucille. Nous recevons un mail à l'instant de Jean-Paul à Villefranche qui nous dit que notre émission est un vaccin contre la morosité. Merci beaucoup. À 9h54, l'heure d'accueillir Christophe Dilis pour sa chronique Tendez l'oreille.
France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dilis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Je vous sens un peu gêné aujourd'hui là.
Oui, et c'est peu de le dire. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier 2021, autrement dit le 14e anniversaire de la sortie en CD de la bande originale du film Miss Potter, le film sur Béatrix Potter. Musique signée Rachel Portman. Donc très bien, je me dis, bah tiens, je vais faire ma chronique sur la compositrice Rachel Portman. Mais Gabriel, tout à fait accidentellement, j'ai découvert en travaillant sur cette chronique, la recette de Rachel Portman. Comment Rachel Portman compose? Alors forcément, oui, je suis très gêné. Ça m'embête de dévoiler ainsi ses secrets, mais vu l'heure, je n'avais plus le temps de changer de sujet.
Bon, déjà, qui est Rachel Portman?
Rachel Portman est anglaise. Elle a 60 ans. Elle compose de la musique de film depuis 1982. Elle a remporté un Oscar en 1997 pour la meilleure partition originale pour un film musical avec Emma, d'après le roman de Jane Austen.
Et donc, sa recette, Christophe?
Eh bien, sa recette, en réalité, elle nous la donne dans une interview. Écoutez bien.
I write on the piano.
Je compose sur le piano. J'ai installé un écran pour pouvoir voir le film en même temps que je joue. Je note mes idées sur du papier et puis j'enregistre en utilisant Pro Tools.
Rachel Portman improvise donc au piano. Elle note ça sur une partition, puis elle met ça à l'orchestre. Et c'est là son secret. Elle compose une musique qui est plus pensée pour le piano que pour l'orchestre.
Vous avez des exemples?
J'en ai plein, Gabriel. Prenons sa musique pour L'œuvre de Dieu, La part du diable, film de 1999. Je me suis mis à la place de Rachel Portman, j'ai joué la mélodie à la main droite et je me suis donné un petit accompagnement à la main gauche. Et maintenant, si je veux mettre un peu d'orchestre, eh ben c'est facile. Je me rajoute des nappes de cordes qui confirment les accords de ma main gauche.
Et donc ça, c'est vous cette nuit?
Oui, cette nuit, vers 3h du matin. Si je vous passe maintenant la vraie musique du film L'œuvre de Dieu, La part du diable, vous allez voir que je ne suis pas trop loin niveau son. C'est une musique composée pour piano, étoffée par l'orchestre à cordes. Et quand j'ai repéré ça, j'ai commencé à l'entendre partout. Vous avez ce même principe de thème à la main droite, bariolage à la main gauche et nappe de cordes partout. Dans Bagger Vance, dans The Duchess, Still Life, One Day, Oliver Twist, etc. Dans The Snowflower, par exemple, film de 2011, j'ai joué cette nuit le thème au piano en rajoutant des cordes en dessous. Si je vous passe l'original du film, et bien vous allez voir, ça ne change pas grand-chose.
Quand je vous posais la question qui est Rachel Portman, bien c'est vous.
Ouais. En fait.
Et donc Christophe, la question est-ce que ça s'entend quand une compositrice ou un compositeur compose une pièce d'abord sur le piano avant de le mettre à l'orchestre?
Eh bien vous allez voir, on va écouter un extrait du Sourire de Mona Lisa, film de 2003. C'est pour orchestre, Rachel Portman ne met pas de piano et pourtant c'est complètement de la musique de piano. On devine une main droite qui fait le thème avec une texture de mélodie accompagnée à la main gauche. Tendez l'oreille, essayez d'entendre l'empreinte laissée par le piano fantôme. « Et voilà, c'est aussi une façon d'écouter toute musique pour orchestre, finalement, d'essayer d'apercevoir le compositeur au travail, comment il passe de son piano slash atelier d'écriture à tout un orchestre symphonique. Et évidemment, j'ai été très injuste avec la merveilleuse musique de Rachel Portman. Évidemment, ça n'est pas que ça, Gabriel.
Et on a appris aussi comment vous vous êtes passé du lit au piano.
Voilà, c'est mon identité secrète.
Merci beaucoup Christophe Dilis pour cette chronique, évidemment, que l'on peut réécouter comme chaque semaine sur notre site francemusique.fr. Tendez l'oreille.
À réécouter sur francemusique.fr.